Voilà, nous sommes heureux de pouvoir nous retrouver encore dans ce lieu pour partager la parole de notre Seigneur. Et je vous invite à faire une lecture cet après-midi, l'Épître aux Galates, le chapitre 4, et nous allons lire à partir du verset 1er. Or, aussi longtemps que l'héritier est enfant, je dis qu'il ne diffère en rien d'un esclave, quoi qu'il soit le maître de tout. Mais il est sous des tuteurs et des administrateurs jusqu'au temps marqué par le Père. Nous aussi, de la même manière, lorsque nous étions enfants, nous étions sous l'esclavage des rudiments du monde. Mais lorsque les temps ont été accomplis, Dieu a envoyé son Fils, né d'une femme, né sous la loi, afin qu'il rachetât ceux qui étaient sous la loi, afin que nous reçions l'adoption. Et parce que vous êtes fils, Dieu a envoyé dans nos cœurs l'Esprit de son Fils, lequel crie « Abba, Père ». Ainsi, tu n'es plus esclave, mais fils. Et si tu es fils, tu es aussi héritier par la grâce de Dieu. Amen. Plus esclave, mes fils. C'est là le titre de ce message. Ce qu'il y a de frappant dans ce texte, ce à quoi l'apôtre Paul est en train de s'affairer lorsqu'il adresse cette lettre aux Galates, c'était des chrétiens, et on aurait pu commencer la lecture un peu plus tôt. Il était en train de leur expliquer que en Christ, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, mais il y a, et je paraphrase, que des gens sauvés. Mais il va un peu plus loin parce qu'il va expliquer que quelquefois dans la vie, il se peut que, et il va prendre cet exemple, qu'une personne, quoi qu'elle soit l'héritière de tout le patrimoine de la famille, quoi qu'elle ait tout à disposition, tant que les temps n'ont pas été accomplis, tant que les temps marqués par le Père n'ont pas été accomplis, ne sont pas venus à leur terme, ils ne diffèrent en rien d'un esclave. Et c'est vrai, on peut réfléchir sur cela, on peut rentrer en discussion, mais c'est vrai. Ce qui nous amène à une question quand même cet après-midi, parce que l'apôtre Paul va développer ce qu'il est en train de dire d'une autre manière, mais qui veut dire la même chose, c'est que finalement, dans notre vie, lorsque nous sommes dans le monde, on vit la même chose que cet héritier qui n'est pas encore dans l'accomplissement de la volonté de son Père. Je le redis d'une manière différente, peut-être d'une manière plus simple, c'est que finalement, si nous sommes sans Christ, si nous sommes en dehors de Jésus-Christ, si nous n'avons pas été affranchis, libérés par Jésus-Christ, nous sommes encore dans l'esclavage. C'est cela que ce texte veut dire. Alors l'apôtre Paul le tourne d'une manière peut-être différente, et au premier abord ce texte peut sembler un peu compliqué, mais c'est ce qu'il est en train d'expliquer, parce qu'il y a des temps marqués, il y a des temps voulus par Dieu le Père. Et le temps le plus important, et c'est ce que l'apôtre Paul nous dit dans ce texte, ce qui a été primordial pour que nous puissions sortir de l'esclavage, pour que nous puissions sortir des rudiments de ce monde, c'est le temps accompli en la personne de Jésus-Christ, celui qui est venu pour nous libérer. Celui qui est venu pour que nous puissions sortir de l'esclavage. Et ce que l'apôtre Paul est en train d'expliquer, c'est ce que Jésus-Christ lui-même a déjà expliqué alors que la foule était là autour de lui. Cet enseignement, Jésus-Christ a voulu le donner. Cet enseignement, Jésus-Christ a toujours voulu le communiquer parce qu'on peut se tromper soi-même, vous savez. Je méditais sur ces choses. Et de la même manière que l'apôtre Paul est en train d'expliquer que finalement, il y a des périodes dans la vie où on ne peut pas différencier l'héritier de l'esclave, parce qu'on l'a vu, on l'a lu, les temps ne sont pas encore accomplis. L'héritier ne peut pas prendre possession de son héritage. Et effectivement, au premier abord, on ne peut pas les différencier. L'héritier, lui, quand même, le sait. Si on est sauvé, on le sait, bien évidemment. Mais nous, dans notre propre vie, nous pouvons aussi nous leurrer de cette sorte. On peut penser que finalement, ça va. On peut penser que finalement, puisque nous côtoyons, et je vais y venir, la maison du Père, puisque nous sommes avec l'héritier, puisque nous sommes, puisque je vais le dire comme ça, puisque nous venons à l'Église, puisque nous avons la parole de Dieu, puisque nous sommes enseignés, on peut penser que nous aussi on peut être héritier. On peut penser que finalement on peut avoir part à l'héritage. On peut penser finalement que nous serons comme le fils qui va hériter. Mais la réalité est tout autre. La réalité est tout autre. Et cet enseignement, lorsque Jésus-Christ est arrivé en disant mais voilà la réalité, c'est que la vérité qui peut vous affranchir. Voilà cette réalité, voilà cette vérité que vous devez comprendre. Et ce chant que nous avons chanté est là pour appuyer cela. Jésus-Christ a pu dire, mais c'est moi le chemin, la vérité, la vie. Parce que Jésus-Christ savait très bien qu'on avait besoin d'être affranchi, d'être libéré. Parce que quand même, le désir de notre Dieu, le désir de notre Dieu, c'est qu'on puisse hériter des promesses qu'il a pour nous. Le désir de notre Dieu, c'est que nous puissions hériter de la vie éternelle, que nous puissions avoir part aux bénédictions qu'il a prévues pour nous. La pensée de Dieu, le désir de notre Seigneur, c'est qu'on soit libéré de notre péché. C'est que nous puissions comprendre que lorsque Jésus dit « Mais vous avez besoin et vous connaîtrez la vérité, c'est la vérité qui vous rendra réellement libre », on a besoin de comprendre que c'est ça, le désir, la volonté, l'expression du cœur de Dieu pour nous, d'une manière individuelle, c'est cela, c'est qu'on soit réellement libre. Et j'aime cette expression « réellement libre », parce que si on la met en parallèle avec le texte que nous avons lu dans l'Épître aux Galates, on comprend que Jésus sait que quelquefois, on peut se croire libre, on peut se croire héritier, on peut se croire fils qui va hériter, mais ce n'est pas la réalité. Ce n'est pas ça. Mais en Jésus-Christ, et c'est ce que Jésus veut faire peut-être comprendre à quelqu'un cet après-midi, c'est qu'on a besoin, et Jésus a tout donné pour que nous puissions être libérés, pour que nous puissions connaître la paix, pour que nous puissions en finir avec peut-être cette détresse intérieure, avec cette angoisse, avec ce sentiment de culpabilité qui nous suit partout où nous pouvons aller, avec ce sentiment que finalement notre vie n'est pas en règle avec Dieu. Et Jésus-Christ est venu pour que nous puissions comprendre que c'est lui la solution, c'est lui qui va nous communiquer et qui a tout accompli pour que nous puissions être libérés du péché et être réellement libres. Vous savez, dans cet enseignement de Jésus-Christ, peut-être on pourrait le lire, c'est dans Jean chapitre 8, parce que vous me regardez avec des gros yeux, alors on va le lire. Jean chapitre 8, verset 31. Et Jésus-Christ va aller plus loin. Il dit aux Juifs qui avaient cru en lui, « Si vous demeurez dans ma parole, vous êtes vraiment mes disciples, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Ils lui répondirent, « Nous sommes la postérité d'Abraham et nous ne fûmes jamais esclaves de personne. Comment dis-tu, vous deviendrez libres ?»« en vérité, je vous le dis, leur répliqua Jésus, « Quiconque se livre au péché est esclave du péché. » Et regardez ce que Jésus-Christ est en train de dire. Or, l'esclave ne demeure pas toujours dans la maison. Le Fils y demeure toujours. Si donc le Fils vous affranchit, vous serez réellement libres. Et c'est là où peut-être je voulais en arriver cet après-midi, c'est finalement, mais dans quelle maison est-ce que nous sommes? Parce que dans ce texte, et on peut vraiment, vous l'aurez compris, mettre ce texte-là et l'Épître aux Galates en parallèle, entre le fils, l'héritier et l'esclave. Et Jésus est en train de dire, mais finalement, à un moment donné, le fils et l'esclave peuvent cohabiter dans la maison. L'Église est ce lieu où rassemblent les personnes qui sont sauvées, les personnes qui ont compris que Jésus-Christ n'est pas venu pour violenter votre vie, n'est pas venu pour bousculer votre être intérieur. Jésus respecte notre identité, Jésus respecte ce que nous sommes, mais Jésus est rempli d'amour et il s'est donné pour que nous puissions comprendre que la volonté de Dieu, c'est qu'on soit ses fils et ses filles. Et l'Église est ce lieu également où il y a les personnes rachetées et les personnes qui sont sans Christ. Et finalement, les deux peuvent cohabiter pendant un temps. Les deux peuvent venir, assister, entendre l'Évangile. Tous peuvent venir devant Christ. Mais à un moment donné, Jésus dit, mais l'esclave ne sera pas toujours dans la maison. Et laissez-moi vous dire que le chant que nous avons chanté, né de la poussière, qui reprend ce verset dans Jean 14, verset 6, en introduction dans ce passage, Jésus est en train d'expliquer qu'il y aura beaucoup de demeures, que c'est lui qui prépare la maison. C'est lui qui prépare la maison pour ses enfants. C'est lui qui prépare, parce que Dieu nous aime, parce que Dieu veut que l'on soit avec lui le jour où il va revenir. Dieu veut que l'on puisse comprendre que c'est lui qui s'occupe de notre maison, c'est lui qui s'occupe de notre vie, c'est lui qui prépare notre chemin, c'est lui qui met les choses en place, parce que les projets que Dieu a pour chacun d'entre nous, ce sont des projets de paix et non de malheur. Et la délicatesse de notre Seigneur, c'est cela, c'est de dire, mais peut-être que vous ne savez pas, peut-être que vous ne comprenez pas réellement pourquoi la croix, pourquoi est-ce qu'on peut chanter dans ce lieu attaché à la croix pour moi. On peut ne pas comprendre. Et Dieu, dans sa miséricorde, dans son amour, vient nous rappeler, vient nous ramener à notre esprit cet amour extraordinaire qu'il a voulu manifester pour que nous puissions comprendre qu'à un moment donné, il faut que nous puissions choisir quelle maison nous voulons. Si c'est la maison de notre Dieu ou si c'est une autre maison. Si c'est la maison où règne la paix, la joie, l'espérance. Ou si c'est une autre maison où nous essayerons par nos propres forces de dire mais je vais pouvoir m'en sortir et on peut s'en sortir bien évidemment dans quelques domaines dans ce monde. Nous pouvons nous en sortir d'un point de vue professionnel et nous sommes tous d'accord pour le dire. Nous pouvons nous en sortir d'un point de vue social, affectif, nous pouvons construire bien des choses ici-bas et ça peut être des choses très saines. On peut travailler au bien des autres, on peut construire notre maison sur la compassion, la pitié des autres, sur l'amour, sur le don de soi. On peut construire notre maison sur beaucoup de choses. Mais la question qui doit demeurer cet après-midi au fond de votre cœur, cette question qui est là, c'est est-ce que c'est Jésus le fondement de ma vie? Est-ce que c'est Jésus qui est dans ma maison? Est-ce que je suis esclave ou est-ce que je suis fils? Est-ce que je peux avoir droit, part aux promesses de notre Dieu? Ou est-ce que je suis encore étranger à cela? Est-ce que je suis étranger? Alors bien évidemment, ne vous méprenez pas parce que la croix c'est pour tout le monde. Qu'on soit étranger, qu'on soit près, comme le dit la parole, qu'on soit loin, la croix c'est pour tout le monde. La croix c'est pour chacun d'entre nous. Ce que Jésus a fait c'est pour chacun d'entre nous. Mais c'est là notre choix. Et de notre choix va dépendre, va découler cette construction, cette bâtisse que nous voulons faire pour nous. Jésus ne va pas nous laisser dans ce en suspens. Jésus n'est pas venu pour nous laisser dans un questionnement perpétuel. Jésus nous donne la solution. Jésus est en train de dire, mais voilà, aux Juifs, aux pharisiens, aux personnes qui étaient intelligentes, qui connaissaient la loi, Jésus est en train de leur dire, mais voilà, vous avez besoin de connaître la vérité pour être libérés. Si donc le Fils vous affranchit, on l'a lu, vous serez réellement libres. Et il y a un passage qui est venu sur mon cœur lorsque je méditais sur cela. Vous savez, il y a ce verset, ça fait quelque temps que je le cite, mais parce qu'il a bouleversé ma vie, c'est lorsqu'il est écrit que Jésus a traversé les cieux pour venir jusqu'à nous. Il a traversé les cieux. C'est là l'amour de Dieu, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. On pourrait peut-être transposer cela au texte que nous sommes en train de partager, afin que quiconque croit en lui ait une demeure éternelle, ait une maison de fils, soit héritier du Dieu Tout-Puissant. Et Jésus a traversé les cieux pour venir jusqu'à nous, pour pouvoir mourir sur le bois de la croix, pour être attaché à la croix, a offert ses mains, ses pieds pour qu'il puisse être percé, pour que son sang puisse couler, pour que nous puissions obtenir le pardon de nos péchés. Mais d'une manière plus personnelle, d'une manière plus intime cet après-midi, il y a ce texte qui est venu sur mon cœur. Lorsque Jésus a traversé cette fois-ci une tempête pour aller jusqu'à un homme, cet homme, son quotidien, c'était les tombeaux, c'était les sépulcres. Cet homme, lui, n'était pas esclave. La Bible nous dit même que les chaînes ne pouvaient le retenir. Mais vous savez, lorsque nous parlons d'être esclave, il ne faut pas avoir cette image que peut-être nous avons dans nos représentations de ces personnes qui étaient physiquement enchaînées. Mais on peut être esclave dans son cœur. On peut être esclave et on est esclave de notre péché. C'est Jésus-Christ qui le dit et nous l'avons lu. On peut être esclave de bien des choses ici-bas. Et cet homme, lui, les chaînes humaines n'ont jamais pu le lier, l'emprisonner. Mais dans son âme, il était esclave. Et Jésus avait traversé les cieux, mais plus que ça, cette fois-ci, il avait traversé cette tempête parce que dans sa volonté, dans son amour, il fallait que cet homme puisse connaître ce que c'est que d'avoir une maison de paix, une maison remplie d'espérance. Cet homme était tourmenté tous les jours de sa vie. Cet homme était là, il se meurtrissait, tellement la souffrance était grande. Peut-être que si on l'avait croisé, on aurait changé de trottoir. On aurait évité son contact. Peut-être que tout le monde le regardait de travers, mais pour Jésus-Christ, lui, c'était quelqu'un qu'il a aimé, au point de donner sa vie. Et cet après-midi, Jésus-Christ a ce même amour, parce qu'il désire que nous puissions comprendre qu'il faut que nous puissions changer de maison. Il faut que nous puissions comprendre que le seul fondement qui pourra subsister le jour où il va revenir nous chercher, c'est Jésus-Christ. Et cet homme qui était là, meurtri, qui n'a jamais pu être guéri, n'a jamais pu être maîtrisé par les hommes, va croiser le regard de Jésus-Christ. Jésus-Christ va délivrer, va libérer cet homme. Sa vie va être bouleversée. La Bible nous dit qu'il va être dans son bon sens. On peut comprendre, au travers de cela, ça se situe dans Marc chapitre 5, on peut comprendre dans ce qu'il a vécu que cet homme qui était sans esclave, qui était sans maison, pardon, que cet homme qui était meurtri au fond de lui, qui était enchaîné dans son âme, qui était enchaîné dans son cœur, va connaître ce qu'est cette réalité d'être héritier, d'être enfant de Dieu, d'être changé, transformé par la puissance de l'amour de notre Sauveur. Et ce que Jésus-Christ a fait pour cet homme, il a fait pour beaucoup d'hommes, pour beaucoup de femmes, pour beaucoup d'enfants, pour beaucoup de vieillards. Et c'est ce qu'il souhaite faire cet après-midi, que nous puissions comprendre que Dieu ne nous a pas appelés à être esclaves, mais à être des fils et des filles de son royaume. Dieu ne nous a pas appelés à être dans la servitude, d'être liés par notre dépendance. Vous savez, je me souvenais pendant ces chants de ce jour où avec quelques jeunes, ce n'était pas ici, on était sortis pour distribuer quelques évangiles. On croise un homme et on lui parle de l'amour de Dieu. On lui parle de ce que Jésus l'aime. Rapidement, quelques mots, quelques échanges. Cet homme était là à côté d'un bar. Et il va dire, non merci, ça ne m'intéresse pas. Moi, je vais là, c'est ça qui donne ma joie. Ma vie, c'est ça, c'est ce bar. Ma vie, c'est ce bar. Cet homme n'avait pas des chaînes physiques. Mais laissez-moi vous dire que dans son âme, cet homme était enchaîné. Et on pourrait multiplier les exemples. Par l'angoisse, par la détresse, par la haine, par l'orgueil, et on pourrait multiplier les exemples. Si le Fils vous a franchi, cet après-midi, Jésus-Christ a tout accompli pour que nous puissions être libérés. Une prière. Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, sauve-moi. Une prière. Et vous allez voir vos chaînes spirituelles tomber. Vous allez voir votre péché, vos péchés pardonnés. Vous allez voir que sur votre curriculum vitae spirituel, il y aura fille du Dieu Tout-Puissant, fils du Dieu Tout-Puissant, héritier des promesses. C'est cela le message de l'Évangile. C'est cela que Jésus-Christ veut faire encore cet après-midi. Je terminerai avec ce psaume, on pourrait le lire ensemble. C'est le psaume 68. Psaume 68, verset 6. Nous lisons. Le père des orphelins, le défenseur des veuves, c'est Dieu dans sa sainte demeure, dans sa demeure sainte. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Il délivre les captifs et les rend heureux. Les rebelles seuls habitent des lieux arides. Dieu donne une famille à ceux qui étaient abandonnés. Vous savez, à l'époque, l'esclave, l'image de l'esclave, c'était personne. Un esclave, ça ne représentait pas grand-chose, rien. Un esclave pouvait être arraché de sa famille. Un esclave pouvait être pris de force, être vendu. Un esclave, c'était peut-être cette personne. Et c'est peut-être cet après-midi, peut-être c'est vous, cette personne seule, isolée, sans secours, sans famille. Des personnes comme ça qui ont perdu tout repère, qui ne savent pas où se tourner. Mais la volonté, et je l'ai dit, je le répète encore, la volonté de Dieu, c'est qu'on soit plus esclaves, mais fils, filles du royaume, héritiers. Dieu donne une famille. Dieu veut vous combler. Et la seule réponse, la seule chose qu'il attend cet après-midi, c'est que nous puissions nous repentir. Dire, Seigneur, pardonne-moi. Seigneur, sauve-moi. Seigneur, tu vois ma vie. Tu vois ce que j'ai fait. Tu vois ceci ou cela, pardonne-moi. Le premier des péchés, c'est d'avoir négligé son amour. Le premier des péchés, c'est d'avoir rejeté Christ. Le premier des péchés, on pourrait le dire comme ça, c'est d'avoir voulu crucifier Jésus-Christ. Mais dans sa bonté, Jésus peut être encore là cet après-midi pour dire, Père, pardonne-leur. Père, je lui pardonne. Aujourd'hui, vous savez, aujourd'hui, votre nom peut être inscrit dans le livre de vie. On peut prier le Seigneur un instant ? Seigneur, merci pour ta parole. Merci parce que tu nous appelles à être libres. Merci parce que tu permets que nous puissions être libres, que nous ne soyons plus esclaves, que nous ne soyons pas enchaînés, non pas par des chaînes physiques, mais d'une manière spirituelle, dans notre cœur, dans notre âme. Seigneur, quel amour tu as manifesté pour chacun d'entre nous, pour que nous puissions être restaurés dans notre vie, dans notre identité. Seigneur, merci parce que tu prépares des demeures pour chacun d'entre nous. Seigneur, merci parce que la maison que tu nous donnes, mais déjà ici-bas, c'est une maison qui s'appuie sur toi. Et nous savons que tu es ce solide rocher, que le vent ne pourra rien, que les tempêtes ne pourront rien, parce que c'est toi qui es notre maison, Seigneur. Merci, mon Dieu. Père, je te prie, Seigneur, si dans ce lieu quelqu'un est encore esclave, d'une manière spirituelle, que cet après-midi puisse comprendre cet amour que tu as manifesté pour le délivrer. Qu'il puisse saisir dans son cœur ces réalités, que tu as traversé les cieux, que tu es capable de traverser toutes les tempêtes de notre vie, pour venir pencher ton regard sur chacun d'entre nous, et d'une manière personnelle, intime, pour nous restaurer. Seigneur, merci pour ce que tu es capable de faire.